Il y a du droit, Michel Burgon.
Bonjour. On nous dit que la réforme européenne du découvert bancaire serait un coup dur pour les petits revenus. Voilà ce que répètent les journalistes avec leurs titres alarmistes et leurs formules toutes faites. Mais derrière ces slogans, il n'y a que de la surface. Car le crédit, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de droit. Et c'est aussi une question de morale. Prêter, ce n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir. Et prêter à celui qui ne peut pas rembourser, c'est le condamner à l'endettement, à la dépendance et parfois à la ruine. Cette réforme n'est pas une invention moderne. C'est un retour. Retour au code d'Hammurabi, qui fixait déjà les limites à l'intérêt. Retour au philosophe Solon, grec, qui abolit l'esclavage pour dette. Retour à saint Thomas d'Aquin, qui rappelait que l'argent est stérile et que faire payer le temps est une injustice. Retour aussi à l'Église, qui pendant des siècles a condamné l'usure comme un péché. Et, pendant que l'Occident assouplissait ses interdits, l'Islam, lui, n'a jamais varié. Le Coran interdit le riba. L'intérêt. La finance islamique a bâti des alternatives. Le partage des risques, la vente avec marge, la location avec option d'achat. Là-bas, on n'a jamais accepté de faire du crédit un piège. Souvenons-nous de cette maxime. On ne prête qu'aux riches. Elle n'est pas cynique, elle est lucide. Prêter à un pauvre, c'est souvent l'enchaîner à sa dette. Et le prêteur est alors soit malhonnête, soit naïf. Le droit des affaires dit la même chose. Depuis 2005, il sanctionne le soutien abusif aux entreprises en difficulté. Injecter de l'argent dans une société condamnée, c'est aggraver sa chute. Pourquoi ce qui vaut pour une entreprise ne vaudrait-il pas pour un ménage ? La directive européenne sur le découvert bancaire s'inscrit dans cette logique. Elle impose une évaluation préalable, une information claire, un accord explicite. Elle ne prive pas les modestes d'un outil, elle les protège d'un piège. On pourrait même aller plus loin, dire que l'Europe, en réintroduisant aujourd'hui des garde-fous contre l'usure, ne fait que redécouvrir sous l'influence de la finance islamique, des principes que le catholicisme, lui, n'avait pas su défendre. Car là où l'Église a fini par céder aux sirènes du commerce et de la banque, l'islam a tenu bon. Il a maintenu l'interdit du riba, il a refusé de transformer la précarité en marchandise, il a rappelé que l'argent ne doit pas produire de l'argent par lui-même. Ironie de l'histoire, ce sont les héritiers d'une tradition que l'Occident a méprisée qui rappellent aujourd'hui à l'Europe ses propres racines. Mais il faut aussi rappeler un autre tournant, celui du schisme protestant. Au XVIe siècle, Calvin, à Genève, admet que l'intérêt puisse être légitime, à condition qu'il reste modéré. Cette nuance, en apparence raisonnable, a brisé le tabou. Elle a transformé le crédit. D'une faute morale, il est devenu un instrument économique. Et c'est ici qu'apparaît une nouvelle hubris. Croire que l'on peut domestiquer l'usure par la raison, la réguler par la loi et la transformer en moteur de prospérité. Le protestantisme, en valorisant l'éthique du travail, de l'épargne et de l'investissement, a légitimé le capitalisme naissant. Max Weber l'a montré. La discipline religieuse s'est muée en discipline économique. Mais cette mutation a eu un prix. En levant l'interdit, on a ouvert la porte à la financiarisation illimitée. L'argent a cessé d'être un moyen, il est devenu une fin, un objectif. Le crédit, au lieu de rester un outil de solidarité, est devenu une marchandise. Là où l'islam a maintenu l'interdit, là où le catholicisme médiéval voyait dans l'usure une faute contre nature, le protestantisme a cru pouvoir rationaliser l'intérêt. Mais cette rationalisation a nourri une illusion, celle qu'on peut moraliser le profit par la seule vertu individuelle. Or, l'histoire récente nous le rappelle, la dérégulation, le surendettement, la spéculation sont les fruits amers de cette hubris moderniste. Puis vint la Révolution française. Elle proclame l'égalité civile, abolit les privilèges, sécularise le droit. L'usure, hier péché, devint une simple question juridique. Le crédit, hier suspect, devint un droit. Et le Code civil de 1804 consacra cette mutation. La liberté contractuelle devint un dogme. Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le prêt n'est donc plus un problème moral, mais une clause. Le créancier protégé par la propriété et le débiteur, seul responsable de son engagement, peut être ruiné. La Révolution a libéré l'homme du joug de l'usurier ecclésiastique, mais pour le livrer à l'usurier bancaire. Ce qui hier relevait de la morale relève aujourd'hui du marché. Et pourtant, les réformistes se félicitent comme s'ils avaient inventé quelque chose. Ils parlent de protection du consommateur, comme si le code d'Hammurabi n'avait jamais existé. Ils évoquent l'éthique bancaire, comme si Solon n'avait jamais abouti l'esclavage pour dette. Ils célèbrent leur intuition, comme si saint Thomas d'Aquin n'avait jamais écrit que l'argent était stérile. Voilà. Voilà l'hubris de notre époque. Croire que l'histoire commence avec elle. Non, l'Europe ne fait pas œuvre de génie. Sous l'influence de ses lobbies, elle réinvente un principe religieux traditionnel dans une formule laïque. À la semaine prochaine.